Prague, 1948, le parti communiste tchécoslovaque arrive au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, plongeant le pays dans des années sombres, faites de privatisations, de dénonciations, de procès politiques. Comment une petite fille française, fille de diplomate, voyait ce monde nouveau et implacable qui était en train de se créer? Quel impact cette enfance si particulière a eu sur la future jeune femme? Ce sont quelques-unes des questions qu'Anna Kubishta a entre autres posées à Valérie Valfar. Née en 1943, elle a vécu 7 ans en Tchécoslovaquie avant de ne plus y retourner pendant près de 60 ans. Valérie Valfar, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous accueille ici en studio en qualité, on va dire, de témoin peut-être, témoin de l'histoire ou de la grande histoire et de peut-être petit témoin de la grande histoire, puisque, pourquoi je dis petit témoin? Parce que vous étiez petite fille dans les années 50 en Tchécoslovaquie. Alors, vous êtes française, comme on va l'entendre, et vous avez été plus tard prof de lettres, vous avez vécu en France. J'aimerais savoir un petit peu, pour commencer, comment est-ce que vous vous êtes retrouvée petite et en Tchécoslovaquie? Il me semble que c'était entre 1946 et 1954.
Mon père était diplomate. Nous sommes arrivés ici en 1947, en novembre 1947. C'est-à-dire dans un pays qui avait vécu la guerre, mais enfin qui était libéré de la guerre. Et en 1948, eh bien, il y a eu le coup d'État. Nous étions enfermés parce qu'on avait la rougeole, mon frère et moi. Mais on habitait en face du parc Riga et on a vu des manifestations, des cris, des gens avec des pancartes. Ma foi, ça a bien fait passer la fièvre, mais ma mère était un peu effrayée, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et mon père est rentré à la maison en disant « il y a eu un coup d'État ». Et peu après, il nous a dit « Masaryk a été jeté par la fenêtre ».
Juste pour repréciser un tout petit peu, hein, pour que les auditeurs resituent, oui. Ce dont vous parlez, en fait, c'est le coup de Prague, hein, ce qu'on appelle le coup de Prague.
Le coup de Prague en 1948. Je pense que c'était en février.
Exactement, c'était en février 1948 et qui donc voit l'arrivée du Parti communiste tchécoslovaque au pouvoir avec à sa tête Klement Gottwald. Juste pour repréciser un petit peu pour nos auditeurs également, quel âge vous aviez à cette époque-là?
Écoutez, je suis de 43, alors en 48... 43, 4, 5, 6, 7, 8, j'avais 5 ans.
Donc vous étiez déjà à 5 ans, je pense qu'on se rend compte déjà des choses qui se passent dans son environnement. C'est pour ça que ces souvenirs...
On se rend compte des choses qui se passent. À 5 ans, j'étais là depuis que j'avais 4 ans, mais à 5 ans, mon univers était quand même déjà constitué. C'est-à-dire que j'avais déjà commencé à bavarder avec une petite fille qui habitait deux étages au-dessus, qui s'appelait Alenka, et avec une couturière qui habitait l'immeuble aussi, qui a beaucoup compté dans notre vie, Madame Estenoa, qui travaillait avant comme première chez Podolska. Podolska, c'était l'atelier, c'était le Dior de Prague, enfin, mais elle n'a plus le droit d'y travailler, parce qu'avec les communistes, on ne pouvait plus faire de clientèle particulière. Podolska était fermée, mais enfin, elle savait le français. J'avais appris le tchèque, comme apprennent les enfants, au fond, avec Madame Mestanova et avec mon amie Alenka. Donc, à 5 ans, 5 ans et demi, même 6 ans, je parlais tchèque le mieux que le français. Et mon identité, au fond, ma constitution, mon monde, c'était le tchèque.
Avant le français.
Avant le français. On n'avait pas le droit d'aller à l'école tchèque et on n'avait le droit à rien du tout. Donc, on n'allait pas à l'école, ce qui est merveilleux quand même.
C'était l'école de la vie, alors?
C'était l'école de la vie, c'était l'école de la rue, parce que quand il faisait froid, il fallait bien faire quelque chose de deux enfants. Mon frère avait 2 ans de plus que moi, qu'on ne pouvait pas tenir enfermés à la maison. Alors, on se promenait dans les rues, on regardait, on allait jouer au parc, on parlait. Et notre univers, surtout le mien, fondamentalement, s'est constitué là, puisque ce monde communiste qui s'est élaboré, je le prenais pour le monde réel, c'est-à-dire les magasins dans lesquels il n'y avait rien, je trouvais ça normal, sauf la vitrine. Faire la queue dans un magasin, c'était normal. Nous, finalement, les diplomates, on avait plus de tickets d'alimentation, tout le monde avait des tickets d'alimentation, mais nous avions plus de tickets d'alimentation que tout le monde. Mais comme il n'y avait rien dans les magasins, tous ces tickets ne nous servaient à rien. On avait quand même droit après, vers les années 50, à un magasin diplomatique, ça s'appelait Zarex, où il y avait un peu plus de choses, mais enfin, il n'y avait rien. Par exemple, les bons de textile faisaient beaucoup rire ma mère, en disant on a beaucoup de bons de textile, mais enfin, il n'y a pas un bout de tissu à acheter dans la ville.
C'était les paradoxes de l'époque communiste.
Oui, en même temps, si vous voulez, c'était une enfance qui a duré jusqu'à mes 12 ans, quand même, sans consommation, sans frustration, sans mode, ou sans rien du tout.
Je voulais juste revenir un petit peu, puisque vous disiez en effet que ce monde qui naissait en fait d'une certaine manière hein, sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale,
oui.
dont
oui.
ce monde communiste, qui pour vous était finalement une évidence, puisque vous étiez petite fille, vous preniez ça comme c'était. En même temps, vous étiez fille de diplomate français, donc occidental, puisqu'on sait toujours que les enfants ont toujours les oreilles à droite, à gauche. Est-ce que vous entendiez, j'imagine quand même, les conversations des adultes? Est-ce que cette différence entre la réalité de la rue et peut-être les conversations que vous pouviez entendre des adultes, est-ce que vous la voyiez peut-être hein ?
Absolument, absolument. On entendait les gens qui, doucement, parce qu'ils avaient peur, qui disaient c'était mieux avant. Mais vous comprenez que le mot « avant », pour quelqu'un qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, « avant », ça ne veut rien dire. Le monde est là où on vit. Alors, le « c'était mieux avant », bon, oui, oui, sans doute, c'était mieux avant, mais comme avant, je n'existais pas, et comme là, je me plaisais démesurément, je comprenais pas tellement qu'ils disent que c'était mieux avant. Comment pouvait-ce être mieux que là où on était avec une totale liberté? Parce que mon frère et moi, et surtout moi, parlaient très bien le tchèque, mais pas les parents. Donc on servait d'intermédiaire, on traduisait comme on voulait, les parents nous croyaient, parce que j'avais pas le choix de faire autrement de toute façon, et ils nous laissaient une totale liberté. Vous comprenez, moi, qui est-ce qui aujourd'hui laisserait ses enfants de 8 ans ou de 10 ans aller à des manifestations au 1er mai ou je ne sais pas quoi et crier à tue-tête, Zamir, Zavlast, Socialismus, je ne l'oublierai jamais. On disait ça et on enviait beaucoup les enfants qui étaient des pionniers. Vous savez, avec une jupe bleue, etc., le petit foulard rouge. Et on s'était fait une tenue comme ça, en volant des serviettes de table rouge de mes parents pour se faire un petit foulard. Je disais à mes copines, au parc, je disais que j'étais tchèque. Je m'étais inventé un nom tchèque et au fond, pour moi, j'étais tchèque. Je ne disais pas à mes parents parce que ça ne leur faisait pas plaisir. Mais enfin, pour moi, j'étais tchèque, je parlais tchèque, et pour moi, j'étais tchèque.
Est-ce que je pourrais vous demander oui. ce que votre père faisait en tant que diplomate, justement, en Tchécoslovaquie? Quelle était
Alors,
sa position?
Il était consul général. Par deux fois, entre deux ambassadeurs, il tenait lieu d'ambassadeur. Et à ce moment-là, on habitait, pour le temps, enfin, entre le départ du premier ambassadeur et l'arrivée du deuxième, pour la passation de pouvoir, on habitait au Palais Bucquois, à l'ambassade de France. Sinon, on habitait tout près d'ici, à Vinohrady, à Niletenské,
c'est
Dumnatst.
C'est vraiment pas très loin de la radio,
hein,
en effet.
C'est pas très loin de
J'imagine
la radio.
J'imagine que pour vous, c'est venir peut-être dans ces locaux de la radio. En plus, c'est quand même un bâtiment historique qui en a vu des vertes
qui
et des pas mûres.
Qui en a vu d'autres.
Qui en a vu d'autres. Ça doit faire quelque chose comme ça de revenir dans ce quartier que vous avez finalement grandi.
Où j'ai grandi et puis où j'ai manifesté et j'ai pleuré parce que tout le monde pleurait, moi aussi, pour la mort de Staline et pour la mort de Gottwald qui lui a survécu coup de 3 mois.
Comment rétrospectivement vous pensez à cette époque, puisque évidemment on sait aujourd'hui quel était ce personnage, hein. Je pense que les adultes le savaient sans doute aussi à l'époque, même s'ils n'osaient pas le dire.
Ils n'osaient pas le dire.
Et rétrospectivement, comment est-ce que vous voyez cette petite fille innocente qui criait finalement « Zamir, Zavlast, Zastalina »
Écoutez, c'est comme une photo déchirée. Cette petite fille, je la crois et au fond je l'aime. Mais cette petite fille-là, quand il a fallu changer de monde et que j'ai demandé dans la voiture à mes parents « Quand est-ce qu'on va revenir ?» Mes parents étaient à ce moment-là, après 7 ans et demi, mutés en Italie. J'ai demandé à la frontière « Quand est-ce qu'on va revenir ?» Ils ont dit « Jamais ».
C'était radical à l'époque, on savait.
Et de toute façon, dans leur tête, jamais, parce qu'ils avaient eu la guerre, mon père avait été en camp, et après, ils avaient eu la Tchécoslovaquie, le système communiste. Alors, entre le système nazi et le système communiste, ils en avaient pas au-dessus de la tête. Ils m'ont dit jamais. Alors je dis, mais quand est-ce que je reverrai Alenka? Ils m'ont dit, mais jamais. Je dis, mais quand est-ce que je reparlerai tchèque? Ils m'ont dit jamais. Et ça a été la déchirure dont je vous parlais. Parce que c'est devenu le pays interdit, la langue interdite. Et ce tchèque que je parlais couramment, je l'ai oublié en 3 jours.
Si vous voulez. Ça a été un choc émotionnel.
Un choc émotionnel tel, tout Freud et Lacan réunis, psychanalyse aussi, n'est pas venu à bout de cette langue qui est toujours en moi et qui ressort dans les situations émotives fortes.
Est-ce que vous avez un exemple ?
Oh oui, ma petite fille qui est extrêmement désobéissante me tenait la main parce qu'elle voulait traverser. Elle m'a lâché la main, elle a traversé en courant et il y a une voiture qui est arrivée. Au lieu de crier « attention », il va de soi que j'ai crié « pas ordre ».
C'est quelque chose de très enfoui qui ressort.
C'est ça, comme je lui ai crié une autre fois « honem ». Alors que dans la vie normale, jamais ces mots-là ne viennent, par exemple. Mais il faut une situation émotionnelle pour qu'à ce moment-là, un pan de langue surgisse.
Et alors, vous êtes partie vers l'âge de 12 ans, donc en Italie. Comment est-ce qu'a vécu en vous la Tchécoslovaquie pendant toutes ces années d'adolescence sans le tchèque et sans les amis tchèques?
Bien, écoutez, l'horreur. Le bonheur était ici, le paradis perdu, l'horreur de découvrir que dans les magasins, il y avait plein de choses, mais que tout le monde ne pouvait pas se les acheter. J'ai découvert l'argent. J'ai découvert, comme je vous le disais tout à l'heure, au fond, qu'on pouvait acheter. Mais il y avait qui pouvait acheter, parce qu'ils n'avaient pas l'argent, et puis il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas acheter. Donc j'ai découvert aussi la frustration. J'ai découvert les parents disant « mais non, on ne peut pas, c'est trop cher ». Toutes sortes de phrases que jamais ils n'ont dites ici, puisque de toute façon ici, il n'y avait rien à acheter. J'ai découvert la mode. Ça, c'est à la mode, ça, c'est dans le coup, ça, ça ne l'est pas. Ici, tout ça n'existait pas. Donc ici, au fond, je ne sais pas ce qui existait, rien, probablement, mais au fond, c'était un monde heureux, bien que, on savait qu'il y a des gens qui étaient arrêtés la nuit. Ma gouvernante chérie, qui, par hasard, d'ailleurs, Vihalova, est devenue, après 68, elle est partie en Autriche, est devenue directeur du conservatoire. Bon, elle a été en prison. Elle a voulu absolument aller en prison. Parce que mon père lui disait, vous faites de la provocation, vous allez aller en prison. Elle dit, je veux aller en prison. Parce que dans mon pays, je suis enfermée. Je ne peux pas dire ce que je veux. Tandis qu'en prison, j'ai ma place. Et dès que je suis une contestataire, ma place, elle est en prison, elle n'est pas dehors. Ça, c'était quelque chose de terrible. Parce que nous ne voulions pas, on l'adorait, cette femme. Elle était artiste, elle était formidable. Donc, au fond, pour moi, vouloir aller en prison, c'était une chose normale. Vous imaginez quel enfant aujourd'hui a envie d'aller en prison?
Quand est-ce que vous êtes revenue pour la première fois en Tchécoslovaquie ou en République tchèque? Ça dépend à quel moment.
Dieu, si vous le saviez, il y a 7 ans. Je ne me suis pas autorisée avant. Et je ne me suis pas autorisée. Mais c'est ma sœur qui a dit, allez, ça va, les blocages. Ça va, ça va. Elle était revenue avec ses maris, ses enfants, en toute tranquillité. Elle était née ici, elle n'avait rien connu. Elle, finalement, sa personnalité, en quelque sorte, elle s'est faite en Italie. On est resté en Hongrie pas tellement longtemps. En 56, on est resté 3 mois, après on a été expulsé, puis après on est en Allemagne, enfin dans d'autres pays. Donc elle ne connaît rien à tout ça, rien. Et elle m'a dit, allez, ça suffit. Ça suffit tes histoires, ça suffit tes blocages, ça suffit tes machins, je t'emmène. Alors, j'ai pleuré comme un fou. Alors, elle m'a dit, c'est gai un voyage avec toi, hein, c'est gai. Elle m'a dit, bon, allez, à un moment, pas tellement loin du Pont Charles, elle a sorti son mouchoir, elle dit, bon, je préfère le sortir parce que là, tu vas pleurer. Mais elle a été très, très bien. Et elle a dit, bon, maintenant, interroge tes jambes et amène-moi au Pont Charles. J'y suis allée direct. Elle m'a dit, interroge tes jambes, regarde pas le plan. Interroge tes jambes, si tu regardes le plan, c'est pas bon pour toi. Allez, emmène-moi ici, emmène-moi à l'ambassade, emmène-moi à la maison et interroge tes jambes. Et on est allé sans se tromper. Et donc la ville est en moi.
Donc vos jambes ne vous ont pas trompé, la mémoire physique.
Pas trompé, la mémoire physique ne m'a pas trompé, l'immeuble de la radio ne m'a pas trompé. Je sais où je vais. Qu'est-ce que je peux dire ? Je vais rentrer chez moi.
Merci beaucoup.